Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. À mes côtés aujourd'hui, un homme qui fait rire de tout, y compris de ses drames personnels sur lesquels il s'épanche dans son spectacle Anesthésie Générale. Bonjour Jérémy Ferrari.
Mais bonjour.
Vous vous apprêtez à clore une longue tournée commencée en 2020. À l'approche de vos deux dernières dates, les 9 et 10 mars prochains, dans quel état est-ce que vous êtes ?
Là, tout de suite, je reviens juste de tourner. J'étais à Forges-les-Eaux il y a encore quelques heures. Donc là, tout de suite, je suis un peu fatigué. Mais ça va.
Oh bah, j'espère que vous aurez quand même de l'énergie.
Mais j'ai toujours de l'énergie pour vous.
Ouf !
Vous m'avez avoué que vous aviez annulé vos vacances exprès pour me recevoir.
C'est vrai. Je n'ai pas menti. Ouais. Dans un instant, on va en parler évidemment de cette tournée qui s'achève, mais aussi de vos projets parce que vous n'en manquez pas. Mais d'abord, les informations que je vous invite à commenter avec moi. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, la grève des contrôleurs qui perturbe les départs en vacances, un TGV sur deux et 150 000 voyageurs privés de train. On fera le point aussi sur les conditions de circulation sur les routes en ce premier chassé-croisé des vacances. La famille d'Alexeï Navalny, officiellement informée de son décès, elle réclame le corps de l'opposant à Vladimir Poutine, mort dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Plus d'une centaine de manifestants ont été arrêtés en Russie. En France, des manifestations contre l'élevage intensif des poulets. Et puis du sport, la journée de Ligue 1 qui a commencé par la victoire de Lyon sur Nice. Et la météo, c'est avec vous Claire Delorme, bonjour.
Bonjour, bonjour
et à tous. C'est un samedi plutôt clément qui nous attend.
Exactement, mais tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Là où les belles éclaircies vont pouvoir se développer, ça sera de la Nouvelle-Aquitaine vers la Normandie en passant par la région du Centre-Ouest. Plein soleil également sur le quart sud-est, donc y compris la Méditerranée et le Languedoc-Roussillon. Donc partout ailleurs, surtout des Pyrénées centrales vers la Bourgogne-Franche-Comté remontant vers le Jura. Là, ça sera assez nuageux avec quelques gouttes possibles que l'on pourra également retrouver vers le littoral de la Manche et les frontières du Benelux, le tout sous la douche. 12 à 16 degrés en général du nord au sud pour cet après-midi.
Ouais, presque printanier.
Très printanier, surtout dans le sud.
Merci beaucoup Claire.
Le journal inattendu sur RTL.
Avant de développer les titres de l'actualité, commençons d'abord par ce témoignage. Un bus de supporters niçois qui rentrait de Lyon après le match de Ligue 1 a été caillassé dans la nuit. Le pare-brise a été traversé par une pierre, a priori lancée depuis un pont sur l'autoroute A46. Un passager a été blessé. Solange, sa femme, était à ses côtés au moment de l'impact. Elle raconte.
Tout d'un coup, on a eu une déflagration, donc ça nous a pris par surprise puisqu'on ne s'y attendait pas du tout. Et on a eu du verre sur le visage, sur le corps, des bris de verre, des poussières de verre. Je me suis retournée vers mon mari qui était à côté et je le vois un peu groggy, qui essaie de se redresser, qui se rafale sur son siège, qui tombe. Et là, je me suis dit, on s'est pris une balle. Une balle de fusil, de revolver, de je sais pas quoi, parce que c'était vraiment une déflagration. Il a été groggy, je pense. Il a eu peur. Il a pris, alors donc après, il nous a expliqué avoir pris le caillou sur le torse. Le choc, même s'il n'était pas violent, plus la déflagration, plus le verre et tout. La peur, quoi. Et le chauffeur nous a dit, lui, par contre, qu'il a senti le caillou lui frôler les cheveux. Si le chauffeur prenait le caillou sur le front, sur la tempe, sur n'importe où, il aurait pu avoir de graves blessés ou des morts, hein. Parce qu'il était en train de conduire à 100 à l'heure sur l'autoroute, quoi.
Ça aurait pu être terrible.
Ah, mais ça aurait pu être un drame.
Un drame évité de justesse, témoignage recueilli par Frédéric Perruche. Le premier chassé-croisé des vacances d'hiver sous le signe de la galère. Les contrôleurs SNCF sont en grève pour réclamer de meilleurs salaires. Résultat, un TGV sur deux circule. 150 000 voyageurs n'ont pas pu prendre leur train. Et la priorité a été donnée aux liaisons vers les Alpes, au détriment des destinations de l'Ouest, par exemple. En gare Montparnasse à Paris, d'où partent les trains vers la côte atlantique, on retrouve Margot Munoz. Bonjour.
Bonjour.
Alors Margot, globalement, vous avez rencontré des voyageurs qui ont bien été prévenus du maintien ou non de leur train, à l'exception d'une famille qui, elle, a vraiment manqué d'informations.
Oui, la colère se lit sur le visage de Marie. La mère de famille n'a jamais reçu son SMS d'annulation. Les billets de train dans ses mains ne valent plus rien. Avec ses deux fils, elle était venue spécialement de Dijon.
On est parti à 5h du matin pour arriver alors à Paris, parce qu'il faut se présenter une heure avant le départ du train pour qu'on nous dise que le train est annulé. Et je n'ai pas été prévenue ni par mail, ni par message, rien. Ils se sont un peu dédouanés et Junior Company est fermée aujourd'hui et on ne peut pas les contacter à part par mail.
Alors dans le hall de la gare, Marie arrête chaque agent SNCF qu'elle croise, mais aucun ne lui apporte une solution.
Sachant qu'il y a un autre train qui part sur Hendaye qui pourrait s'arrêter à proximité, Bayonne, mais non, ils peuvent pas prendre la responsabilité de prendre en charge les enfants.
Ça peut être quoi la solution ?
D'y aller en voiture, mais je travaille lundi.
Juste à côté d'elle, son fils soigne 10 ans, dans ses yeux, la déception.
C'est très dommage parce qu'on voit que les vacances. Et moi, ça m'énerve un peu.
Marie et ses enfants viennent de quitter la gare. Ils feront Paris-Dax en voiture.
Merci Margot Munoz en direct de la gare Montparnasse à Paris. Et si vous aussi, vous avez rencontré des difficultés, eh bien vous pouvez nous laisser vos témoignages sur l'application RTL. Pas de difficultés, Jérémy Ferrari, pour rentrer de Forges-les-Eaux ?
Non, parce que moi j'étais en van. On évite effectivement souvent le train, parce que comme il y a beaucoup de grèves et que je ne peux pas louper les spectacles, malheureusement ça nous fait prendre un peu trop le van. Donc j'ai un van confortable, mais on préférait prendre un peu plus le train. Mais il y a un peu trop de grèves pour nous, c'est trop risqué.
Trop risqué. La route. Donc, et bien justement, sur les routes en ce samedi, vous êtes nombreux, journée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, Nérémine Leclèche.
Bonjour.
Alors, quel est l'état de la circulation à la mi-journée ?
Bien, c'est un peu plus calme que prévu, hein, près de 230 km de bouchons en France ce midi. En fait, c'est très localisé, surtout aux abords des stations de ski en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l'avez dit, hein, région classée rouge par Bison Futé. Vous risquez de devoir freiner sur l'autoroute A43 entre Lyon et Modane et l'autoroute A40 entre Lyon et Annemasse. Si vous roulez dans le sud de la France, attention, vous pourriez croiser sur votre chemin des barrages filtrants, conséquence de la mobilisation des infirmiers libéraux cet après-midi. Ça concerne notamment les péages de Toulouse et de Nîmes. Le pic de circulation est prévu à 16h, avec des ralentissements qui vont débuter en Île-de-France, notamment sur l'autoroute A6.
Paris-Forges-les-Eaux, ça roule très très bien. Il n'y a aucun problème.
Voilà, c'est le point météo de Jérémy, le point route de Jérémy Ferrari.
Il fait beau, si vous voulez de la météo, je vous en mets. Hein.
Mais oui, allez, vous faites la totale. Merci Hermine. En tout cas, et bon courage aux automobilistes. Si jamais vous galérez, sachez que nous sommes là pour vous accompagner. Un homme a été tué à Paris par des policiers la nuit dernière. Il était muni d'une lame de boucher qu'il n'a pas voulu lâcher malgré leurs demandes. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu s'est précipité sur les quatre agents qui ont alors fait feu à une vingtaine de reprises. La victime était née au Soudan et inconnue des services de police. En Russie, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées lors de rassemblements en mémoire à l'opposant Alexei Navalny, principalement à Saint-Pétersbourg, mais également à Moscou ce matin encore. Toutes les manifestations d'hommage ont été interdites par les autorités. Rappelons qu'en Russie, toute critique publique du pouvoir est passible de prison. Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, est mort dans une colonie reculée en Arctique, où il se trouvait depuis 3 ans. Sa mère en a été officiellement informée et ses proches demandent à ce que sa dépouille leur soit remise immédiatement. On ne connaît pas encore les causes exactes de son décès. En tout cas, à un mois de la présidentielle, c'est la principale voix discordante qui disparaît en Russie. Écoutez Alexei Venediktov, lui aussi est un dissident. Il connaissait bien Alexei Navalny.
Même si la mort était naturelle, il faut comprendre que c'est le meurtre politique. Son meurtrier, ce sont les tortures. Et quand vous êtes en prison, c'est l'État qui est responsable de votre santé et de votre vie. Après qu'il est venu, il était arrêté, j'ai demandé à Vladimir Poutine quel danger représente M. Navalny pour lui. Il a dit, vous ne comprenez pas, il veut que la jeunesse sorte dans la rue, il est agitateur. Moscou sera comme Paris avec les gilets jaunes.
Les Occidentaux demandent des comptes à la Russie qui reste pour l'instant silencieuse sur ce décès. Cette semaine, d'ailleurs, Le Point fait sa une sur les usines à mensonges dans les coulisses de la désinformation en Russie, justement, mais aussi en Chine ou encore en Turquie. Et pendant ce temps, eh bien, Volodymyr Zelensky est en tournée européenne pour chercher du soutien auprès de ses alliés. Il participe aujourd'hui à la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne. Il doit rencontrer la vice-présidente américaine Kamala Harris, alors qu'une aide de 60 milliards de dollars est actuellement bloquée par les Républicains. Hier, l'Allemagne et la France ont signé des accords de sécurité avec l'Ukraine et engagé une dizaine de milliards d'euros de soutien militaire promis pour 2024. Et puis sur le terrain, eh bien, l'armée ukrainienne a dû se retirer de la ville d'Adkivivka, prise d'assaut par les Russes. C'est situé dans l'est du pays. Dans un instant, retour en France avec les opérations des défenseurs de la cause animale contre l'élevage intensif des poulets. Restez avec nous pour la suite du journal.
Le journal inattendu.
Jérémy Ferrari, Nathalie Bello.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Jérémy Ferrari et Nathalie Renaud.
Cette semaine, l'animateur Nagui et des militants L214 ont mené une opération choc place du Trocadéro à Paris. Ils ont exposé des cadavres de poulets le Gaulois pour dénoncer les conditions d'élevage intensifs de ces animaux. Aujourd'hui, de multiples rassemblements prennent le relais, devant les supermarchés notamment, afin de sensibiliser les consommateurs. Valentin Larquier est au carrefour Purpan de Toulouse, où les militants de la cause animale font entendre leur voix.
Elliot, jeune militant de l'association L214, colle à toute vitesse des autocollants sur des barquettes de poulet, des étiquettes qui ressemblent à celles de la marque Le Gaulois, sauf qu'on y voit un animal mort et ce texte.
Poulet manipulé génétiquement et croissance anormalement rapide, 44 jours de souffrance. Parce que les poulets sont tués au bout de 44 jours, ils peuvent même mourir avant, ils vivent dans feuilles A4 environ en termes d'espace. Ils baignent dans leurs excréments, enfin des pratiques horribles, inimaginables. On vise à alerter le consommateur pour qu'ils aient conscience de ce qu'ils achètent.
Myriam et Armand, qui font leurs courses dans le rayon, soutiennent cette action.
J'achète pas ces produits-là dans la mesure où les animaux sont maltraités. Voilà, je mange de la viande, mais je veux qu'ils soient élevés dans des bonnes conditions.
Si ça peut faire changer d'avis quelques personnes, effectivement, qui vont s'orienter vers d'autres produits, c'est bien. Si on avait tous les moyens d'acheter des produits de meilleure qualité, on pourrait le faire aussi.
Armand a quand même du mal à imaginer que cette action ait un impact sur les consommateurs qui se tournent vers ces produits car ils sont peu chers. L214 veut pousser les marques qui ne l'ont pas encore fait à rejoindre l'European Chicken Commitment. Il garantit des conditions d'élevage et d'abattage correct pour les poulets.
C'était Valentin Larquier à Toulouse. L'alimentation de qualité, la crise agricole, tout ça, ça pourrait faire partie d'un prochain spectacle puisque vous vous attachez beaucoup à l'actualité.
Ben, ça a failli même faire partie de celui-ci en réalité parce que j'ai tout un dossier sur la mauvaise alimentation parce que ça fait partie de la santé. Hein. Quand les gens se demandent aussi pourquoi il y a autant de cancers, etc., on sait que c'est très très lié à la mauvaise alimentation et aux produits qu'on sert aux gens. Donc les gens malheureusement ne peuvent même plus avoir confiance de ce qu'on peut leur vendre dans les supermarchés, surtout quand c'est très très peu cher, hein, comme on vient de l'entendre. Et donc effectivement, j'ai tout un dossier là-dessus. Comme le prochain spectacle sera sur l'écologie et que j'ai commencé à travailler, je me suis rapproché d'Hugo Clément avec qui on s'entend très bien. On a très très vite sympathisé, donc on a les mêmes colères et les mêmes envies. Donc du coup, je pense que la maltraitance des animaux en élevage va faire certainement partie des prochains sujets que je vais traiter dans le spectacle.
Et bien voilà, c'était au cœur de l'actualité. Autre mobilisation du jour, celle des infirmiers libéraux qui sont dans la rue pour réclamer des revalorisations des tarifs de leurs actes. Ben ça aussi, ça aurait pu être dans votre dernier spectacle qui
oui, mais il fait déjà 3 heures le spectacle. Alors moi, je veux bien rajouter, hein, mais on va pas s'en sortir.
Allez, le football, la 22e journée de Ligue 1. Hier soir, Lyon s'est imposé 1-0 face au 2e du classement Nice. Les Lyonnais sortent de la crise. Ils remontent à la 11e place. À suivre aujourd'hui, Lille-Le Havre à 17h et Nantes-PSG à 21h et tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé qui a officiellement annoncé son départ de Paris la saison prochaine. Vous aussi, vous allez regarder Jérémy Ferrari ?
Absolument pas. Je n'aime pas le foot, je ne regarde pas. Ça exaspère mes amis. Je ne comprends rien, je ne sais pas qui sont les gens, je ne sais pas.
Donc pas de foot pour vous, mais pour nos auditeurs.
Le journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Jérémy Ferrari, c'est maintenant l'heure de votre portrait.
Oh, le générique.
Eh oui, si des auditeurs ne vous connaissaient pas et que je devais vous présenter, je leur parlerai d'abord du gamin de Charleville-Mézières. Pas d'Arthur Rimbaud, qui lui avait choisi la poésie, mais de vous, qui optez pour le théâtre et l'humour, hérité de votre mère, dont vous avez d'ailleurs pris le nom. Vous vous lancez dans votre ville d'abord, puis au cours Florent à Paris. Vous montez un spectacle, moi méchant, point d'interrogation. On vous posera la question. Ce spectacle, vous le jouez pendant 2 ans, puis le grand public vous découvre à la télévision.
Parce que dans les frigos non plus, elle ne passe pas, votre mère. Alors en attendant, on l'a stockée hein, dans la chambre froide de la boucherie de Monsieur Martineau. Mais il va pas la garder éternellement. Moi, je l'ai vu tout à l'heure au téléphone, il est furieux, Monsieur Martillo. Hein. Mais parce que, en plus, hein, sa boucherie, c'est une boucherie orientale. Alors, bah oui, bon, enfin, je suis désolé, mais renseignez-vous. Mais je pense pas que les musulmans considèrent que votre mère soit halal, madame. Hein.
L'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier vous apporte la notoriété. Alléluia Bordel, votre spectacle sur la religion n'attirait que quelques dizaines de spectateurs avant la télé. Et après, eh bien, vous faites sale comble. 2016, nouveau one-man show. Vend 2 pièces à Beyrouth sur le terrorisme.
Mokhtar ! Mokhtar, attends, Mokhtar, hop, attends. T'avais pas un attentat suicide ce matin ? Si ? Ça s'est bien passé.
Toujours la même veine, une observation fine et sans complaisance de l'actualité. 2020, c'est anesthésie générale sur la santé, juste avant la pandémie, c'est ce qui s'appelle avoir du nez.
Alors les scientifiques, en ce qui concerne la théorie de la mémoire de l'eau, ils ont dit, pardon ? Mais vous auriez des preuves à nous apporter? Alors les homéopathes se sont dit, ouais, on a plein de preuves à vous apporter, mais on vous les apportera plus tard, parce que là on est dans la forêt, on essaie de faire entrer un spéculum dans le cul d'un hérisson.
Sur scène, vous êtes une boule d'énergie et de cynisme. Les spectateurs qui aiment être caressés dans le sens du poil, très peu pour vous. Vous n'hésitez pas à les bousculer et ils viennent pour ça, ça fait partie du contrat. Cette fois-ci, vous les avez aussi émus en vous livrant sans phare sur vos démons, comme un funambule marchant sur le fil de votre histoire, risquant de tomber dans le mièvre ou dans le glauque, sans jamais le faire, tout en gardant l'équilibre. Et à en croire ces deux accords Arena qui font le plein les 9 et 10 mars en guise de point final à votre tournée, vos fans vous trouvent peut-être méchant, mais ils vous aiment.
Je dis aime et je le sème sur ma planète.
Est-ce que j'ai oublié des choses, Jérémy?
Oh non, c'était très beau. Bon. C'était très beau et très gentil.
Ouais, je suis gentil parce que c'est
ça,
l'accueil.
Et tout ça ponctué des musiques que j'aime, on le fond, les gens le savent pas.
C'est un peu
c'est que
exprès,
des musiques que j'aime.
Oui, évidemment, évidemment. Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous vous appelez Jérémy Larzilière. Ouais. En réalité, pourquoi est-ce que vous avez opté pour Ferrari, le nom, le patronyme de votre maman?
Parce que je trouvais que Larzilière, c'était pas très joli, que c'était compliqué à écrire, et j'avais le nom de ma mère à disposition. Et c'est même mon père qui m'a conseillé de prendre le nom de ma mère. Il me dit, tu devrais prendre le nom de ta mère, c'est quand même plus chouette. Jérémy Ferrari, ça sonne quand
ça
même.
Claque.
Jérémy Larzilière. Et puis c'est quand même mon vrai nom. C'est pas un nom que j'ai inventé. Oui. C'est, ça reste le nom de ma maman.
En même temps, je me disais, Jérémy Larzilière de Charleville-Mézières, c'était, il y avait quelque chose.
Ouais,
quand
même, mais bon, ça fait très très long. Ça fait beaucoup 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 de syllabes.
Alors dans un instant, on va parler de la fin de votre longue tournée avec Anesthésie Générale, un spectacle dans lequel vous passez au scalpel notre système de santé. Vous terminerez d'ailleurs le 10 mars, non seulement sur scène, mais aussi dans les cinémas de France, puisque le spectacle sera retransmis aussi au cinéma.
Oui, alors ça, c'est pas mon idée pour une fois. C'est reposant d'avoir une idée qui n'est pas la sienne, de pas l'avoir la portée. Oui, alors en fait, il y a Pathé. Alors, c'est pas diffusé que dans les cinémas Pathé, mais Pathé m'a approché pour me proposer effectivement de diffuser cette dernière à Bercy. Au début, on avait 150 salles de cinéma, puis après 200, puis 300, puis maintenant on est à plus de 300. Donc, c'est incroyable. Et puis.
Vous savez combien ça va faire de spectateurs finalement?
Écoutez, c'est pas mal, hein, parce que là, je crois qu'au dernier point avec eux, ils nous disaient qu'on allait facilement dépasser les 50 000 billets. Donc c'est génial, parce qu'en plus, moi j'avais un peu peur, parce que comme on a déjà fait plus de 300 000 spectateurs en salle, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir encore beaucoup de gens qui vont avoir envie de venir voir le direct? Et puis écoutez, les pointages sont vraiment excellents, donc ça continue là. Donc on ne sait pas combien on va terminer, mais on sait déjà qu'on va dépasser les 50 000.
Voilà, grosse pression pour la date du 10 mars. Restez avec nous, c'est le journal inattendu de Jérémy Ferrari.
Je dis
aime, aime, aime. 12h30, 13h30,
le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Thunderstruck, AC/DC. Pourquoi est-ce qu'on vous propose cette musique-là, Jérémy Ferrari?
J'écoute juste avant de monter sur scène. J'écoute ça à fond dans la loge. Ah là, j'ai envie d'aller sur scène.
Allez-y, faites-nous un sketch, hein. N'hésitez pas.
Ouais, j'ai toujours ça avant de monter. J'ai tout un petit protocole avant de monter sur scène.
Ah oui, vous êtes du genre un peu.
Ouais, j'ai ma petite routine. C'est pas grand-chose. Hein. C'est des musiques bien précises. C'est tout un truc. Hein. C'est un ordre à respecter. Et mon équipe technique, elle sait que quand elle entend ça dans la loge, elle peut rentrer pour m'équiper, mettre le micro et tout ça.
Et si jamais il y a un couac et si ça se passe pas exactement comme prévu, vous êtes pas bien?
Ah ouais, non, il faut pas. Il y a vraiment. J'ai vraiment un protocole. Il faut absolument. Mais c'est mon protocole est quand même pas très chiant. Quoi. Je veux juste prendre une douche et écouter ça. C'est pas incroyable. Hein. Je peux vous citer des caprices de stars. Vous allez voir que je suis pas compliqué.
D'accord. Donc on est dans du raisonnable. Alors Anesthésie Générale, vous l'avez écrit avant la pandémie. C'est un spectacle sur la santé. Et puis, paf, il y a eu le Covid. C'est quand même un incroyable concours de circonstances. Ou est-ce que vous avez du nez et une intuition incroyable?
J'ai déjà vécu ça avec Vendepièce à Beyrouth. Hein. Vendepièce à Beyrouth, je l'ai écrit. Ma première était 2 mois après les attaques du Bataclan. Hein, alors que c'est un spectacle sur le terrorisme. Donc c'est malheureusement un peu à chaque fois la même chose. Même sur mon premier spectacle, on en parle moins parce que c'est moins probable. Mais en réalité, quand j'ai écrit Alléluia Bordel, que ça a commencé à marcher, on est tombé en plein dans les débats sur le burkini. Il y avait l'affaire Dieudonné, la burqa, la place des religions en France. Enfin bon, c'était déjà le grand débat national à ce moment-là. Donc si je suis habitué, à chaque fois que je vais sur un sujet, à chaque fois, il y a plus ou moins un drame qui suit. En sachant que le prochain est sur l'écologie.
Est-ce que vous êtes chat noir ou est-ce qu'au contraire, vous avez une intuition d'enfer? Bon, ça c'est tout... Non, je pense que c'est de l'intuition. Comment est-ce que vous procédez pour l'écriture de vos spectacles? Parce que c'est très informé, donc vous faites un vrai travail d'enquête avant?
Oui, en fait, moi je pars du principe que être drôle, normalement, c'est ce que je dois faire le plus facilement, puisque c'est mon métier, je suis humoriste. Donc logiquement, être drôle, ça doit être le truc le plus instinctif. Ce qui l'est moins, c'est effectivement faire ce travail-là de recherche. Moi, je pars du principe que mon cerveau, c'est comme une machine à mouliner, et qu'il faut que je lui donne de la matière, et que plus je lui en donne, et plus ce qui va ressortir sera de qualité. Donc ce que je fais, c'est que je travaille entre 1 an et demi et 2 ans mes sujets. Donc ça commence par une espèce de défrichage. Donc je pars d'un truc très très instinctif, hein. Par exemple sur la santé, je me suis dit, ok, pour moi c'est quoi la santé? Donc je prends des grands thèmes comme ça qui me sortent de la tête, je commence à les étudier, je les survole, et puis au fur et à mesure je fonctionne en entonnoir. Plus les sujets me semblent importants, plus je les réduis, plus je les dissèque. Ensuite je fais des rencontres. Donc ça va aller, hein, d'un mec qui a bossé pour le Vidal à, j'en sais rien moi, un médecin généraliste, à de l'immersion bien sûr. Pour ce spectacle je suis allé aux urgences psychiatriques, aux urgences classiques. Je suis allé parler avec des infirmières, j'ai rencontré des syndicats, etc., etc., etc. Et tout ça, au fur et à mesure, ça me donne une espèce de trame de pensée. Puis évidemment, au fur et à mesure de mes recherches, ben, je trouve aussi plein de vannes, hein, parce qu'il y a, mm-hmm. y a des trucs drôles qui viennent. Quand vous commencez à travailler sur l'homéopathie, vous riez du début à la fin. Je veux dire, que ce soit la fabrication, que ce soit la communication, que ce soit les ingrédients, vous êtes tout le temps mort de rire. Donc, si vous voulez, les sketchs s'écrivent vite. Après, il y a, par exemple, j'ai voulu traiter de la sécurité sociale, parce que je voulais expliquer aux gens comment on se retrouve à cet état-là de notre système de santé, et par le biais de la sécurité sociale, c'est très intéressant parce que ça nous explique beaucoup de choses. Bon, donc il fallait qu'il y ait un côté informatif, mais il fallait que ce soit drôle. Bon, bah, si vous mettez par exemple l'état financier de la sécurité sociale en parallèle de l'état financier de Jacques Servier, par exemple, eh bah, ça devient très très drôle.
Oui, évidemment.
Parce qu'on sait que les labos sont devenus milliardaires grâce à la sécurité sociale. Donc, voyez, ouais, en fait, il faut toujours essayer de trouver un axe ou un angle qui va faire qu'on peut mettre de l'information, mais surtout être drôle.
Ouais, donc c'est un sacré boulot pour ceux qui nous écoutent. Voilà, faire rire, ça n'est pas que instinctif, c'est aussi du travail. Au final, dans ce spectacle...
Ça dépend qui, hein.
Ah ben là, donnez-nous des noms, hein, Jérémy Ferrari.
Eh ben, vous les connaissez, ils sont chez vous.
Oh, bah mince alors.
Oh, une petite balle gratos à mes copains d'RTL.
Dans ce spectacle, il n'y a pas que de l'information. Vous vous livrez aussi, assez personnellement, sur vos démons, je le disais, alcoolisme, dépression, tentative de suicide. Pourquoi être allé aussi loin dans l'intime ?
En réalité, j'ai pas l'impression que je vais loin dans l'intime. Je sais que c'est l'impression que ça donne parce que je vais parler de l'alcoolisme ou des maladies psychiatriques, mais on considère que c'est de l'intime et on a tort. En réalité, c'est pas de l'intime. C'est justement ça qui fait que les gens ont honte d'en parler, parce qu'ils ont l'impression qu'ils livrent un truc incroyable. Je veux dire, si vous avez du diabète, vous allez pas en avoir honte. Eh ben, c'est la même chose pour moi. Et je pense pour moi, l'intime, c'est vous parler de trucs vraiment très personnels, de trucs que j'ai vécu dans mon enfance. Ça, je le fais pas. Ce que moi, je raconte, c'est mes troubles, mon addiction, mon alcoolisme, c'est pour moi, c'est pas de l'intime. Et justement, pourquoi j'ai décidé d'aller là-dedans? Vous savez, j'ai pas écrit le spectacle sur la santé parce que j'ai eu ces problèmes de santé, parce que quand j'ai écrit Vendre deux pièces à Beyrouth, j'hésitais entre la géopolitique et la santé. Et à ce moment-là, j'étais encore dans mes troubles et j'étais encore dans l'alcoolisme, donc ça me serait pas venu à l'idée d'en parler, vous voyez. En réalité, la santé, pour moi, c'est un sujet il fallait absolument en parler, parce que c'est un sujet sur lequel qui intéresse les Français de plus en plus. Les gens s'intéressent de plus en plus à savoir justement ce qu'ils mangent, ce qui se passe sur leur santé, le sport. Enfin voilà, il y a toute une démocratisation comme ça de l'intérêt de la santé des gens. Et
votre propre exemple, c'était leur dire, bah, dédramatisons et parlons de ces phénomènes-là.
C'était surtout un sujet comme un autre. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, la santé, je parle, ça va aller de la sécurité sociale à l'homéopathie, et j'avais un sujet qui était tout près, c'était le mien. La psychiatrie, c'est un sujet important. L'addiction, c'est un sujet important. Donc, j'avais un témoignage qui était tout près, c'était le mien. Et je savais aussi qu'en en parlant, ça allait aider plein de gens, parce que moi, je m'en suis sorti sans traitement, pratiquement uniquement en dialoguant, en m'ouvrant, en allant en réunion d'alcooliques anonymes, en parlant avec des psychiatres, en assumant auprès de tout le monde qui j'étais, ce que j'étais aussi. Et je savais que ça allait aider énormément, énormément.
Est-ce que vous avez eu des témoignages après ce spectacle de gens qui vous disent « Ah, ça nous a aidé, ça
mais
nous a libéré ».
J'en ai des centaines par semaine. Je savais que ça allait faire ça, mais je n'avais pas conscience à quel point. Des centaines par semaine.
C'est-à-dire aujourd'hui que, encore.
Mais bien sûr. À chaque fois que hier, j'ai joué à Forges-les-Eaux, je sors du théâtre. Je pense que j'ai au moins 10 ou 15 messages juste de gens dans la salle qui me disaient merci parce que mon oncle est alcoolique, ou merci parce que je suis en dépression, merci parce que ma fille est TDAH, merci. En fait, même si je vous pose la question à vous, je suis absolument convaincu que vous avez. Si je vous dis est-ce que quelqu'un de votre entourage ou vous-même, je ne vous demande pas de me répondre évidemment, mais être touché par la dépression ou l'addiction ou un trouble psychiatrique, je suis sûr que vous allez me répondre oui.
Mais
tout
évidemment.
Le monde. Donc évidemment que ça touche absolument tout le monde, directement ou indirectement, mais c'est un des sujets les plus prégnants dans le quotidien des gens.
Alors, vous nous parliez de l'homéopathie tout à l'heure. On a un extrait de votre spectacle sur l'homéopathie. On va voir si ça vous fait rire.
Donc, la théorie de la mémoire de l'homme suppose qu'en fait, nous tous aurions vachement sous-estimé l'eau, qui serait en fait en mesure de garder en mémoire, donc dans sa mémoire d'eau, l'électromagnétisme de la molécule de départ.
Ce que j'aime bien, c'est que je vous vois lire sur les lèvres.
Non, c'est parce qu'en fait, j'ai corrigé un peu le texte et ça m'énerve de l'entendre jouer comme ça.
Ah mince.
J'ai envie de le corriger. J'ai un petit peu amélioré cette partie.
Vous vous faites rire quand vous vous écoutez ?
Non, bah quand même, des fois, ouais. Bah heureusement, si je me fais pas rire. Non, mais j'adore les humoristes faussement modestes qui disent je ne me fais pas rire. Bah putain, si tu te fais pas rire toi-même. Heureusement, moi, quand j'écris mes sketchs, je rigole quand même. Si ça me fait pas rire moi, je peux pas faire rire les autres avec, bien sûr que ça me fait rire. Pas tout, hein. Il y a des anciens sketchs que je regarde, des fois, je me dis c'est un peu nul. Mais...
Allez, on va devoir faire une petite pause et on va partir sur cette musique-là. Et c'est vous qui l'avez choisie. Le Grand Bleu, film culte de Luc Besson, une musique d'Éric Serra. Je vous cite parce que c'est un film qui est aux deux extrémités de la mort et de la vie.
Complètement. Je continue de penser ça. Et je trouve que quand on est dans l'extrême de quelque chose, c'est ça qu'on ressent. Je pense que ce qu'on appelle la transe, je pense vraiment que c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'on est tellement vivant qu'on est en train de faire demi-tour, comme si on était en train de clore la boucle. Et moi, c'est ce que je ressens sur scène. Hein.
Vertigineux.
Ouais, mais c'est ça qui est magnifique. Je pense vraiment que c'est ça. Comme je pense vraiment que tout est équilibre dans la vie, je pense que la mort et la vie, c'est une boucle. Et quand vous êtes trop vivant, eh ben vous frôlez la mort.
C'est philosophique, c'est sur RTL. Nous poursuivons le journal inattendu de Jérémy Ferrari juste après les titres de 13h.
Journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL.
RTL, il est 13h01.
Le journal inattendu de Jérémy Ferrari.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renoux.
La grève des contrôleurs SNCF se poursuit. Seulement un TGV sur deux en circulation. Au total, 150 000 voyageurs seront affectés durant le week-end. Des dizaines de personnes ont été arrêtées à Moscou et dans plusieurs villes de Russie lors de rassemblements en mémoire à l'opposant Alexei Navalny, dont la mort a été annoncée hier. Sa famille demande à ce que la dépouille lui soit remise immédiatement. Mais à l'instant, l'équipe du dissident indique que le corps d'Alexei Navalny n'est pas à la morgue indiquée par les autorités russes. Un bus de supporters niçois caillassé la nuit dernière près de Lyon. Il a eu le pare-brise traversé par une pierre sur l'autoroute A46. Un passager a été légèrement blessé. Et puis en football, la suite de la 22e journée de Ligue 1. Hier soir, les Lyonnais ont battu Nice 1-0. Deux rencontres à suivre aujourd'hui. À 17h, Lille-Le Havre et à 21h, Nantes qui reçoit le Paris Saint-Germain. La météo, c'est de la tradition dans le journal inattendu. C'est notre invité qui nous la donne. Donc c'est à vous, Jérémy Ferrari.
On y va ?
Allez.
Allez, place à l'accalmie cet après-midi avec de belles éclaircies qui vont se développer du Pays Basque à la Normandie, en passant par la Bourgogne et les régions du centre-ouest. L'après-midi sera également très agréable sur le quart sud-est avec un soleil généreux. À noter la tramontane qui va se renforcer jusqu'à 70 km/h dans son domaine. Partout ailleurs, la grisaille restera de mise avec quelques gouttes possibles et Charleville-Mézières, la ville où je suis né, n'échappera pas à la règle. Côté température, ça restera encore très doux pour un mois de février. Comptez 13 degrés à Lille, 15 degrés à Paris, Nantes et Cognac. Ça pourra grimper jusqu'à 20 degrés près de la Méditerranée, comme à Montpellier par exemple. Par contre, je ne finirai pas ça par enjoy comme l'a suggéré Claire Delorme.
Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, nos invités prennent une voix extrêmement douce pour nous donner la météo.
Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous le fasse en vous insultant ?
Ah ben, on aurait pu avec vous, Jérémy Ferrari. Ça aurait été possible.
Plus personne écoute, tout le monde. monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis.
On écoute l'odeur de l'essence d'Orelsan que vous avez choisi parce que, dites-vous, c'est le reflet de l'époque. Alors je cite quelques punchlines de cette chanson d'Orelsan. Écoute la haine les faire basculer dans les extrêmes. Qu'est-ce qui nous gouverne ? La peur et l'anxiété. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Vous retiendriez quoi de tout ça ?
Tout ça. Je retiens tout ça. Quand bon, moi j'aime beaucoup Orelsan de base parce que j'aime beaucoup le rap et j'aime beaucoup les textes surtout. Donc j'aime pas tout le rap du coup. Mais quand j'ai entendu cette chanson, j'ai dit il a vraiment fait très 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 fort parce que moi déjà j'ai du mal en 3 heures de spectacle à résumer parfois tout ce que je pense et le faire en une musique de 3 minutes 30 c'est très très fort et les phrases et les mots sont parfaits. Pour moi là ce texte là c'est vraiment du génie. Il a vraiment réussi à mettre des mots sur l'absurdité, la violence et la débilité de cette époque. Vraiment, je suis entièrement d'accord avec chaque phrase que peut prononcer Orelsan dans cette chanson.
Et ça se termine par le crash. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste sur l'avenir de notre société ?
Oui et non. Je pense que quoi qu'il arrive... En fait, c'est toujours la même chose, c'est que l'être humain a tendance à réfléchir à l'échelle de sa propre vie. Donc, évidemment, si on réfléchit à l'échelle de sa propre vie, je ne suis pas très optimiste sur les 10, 15 ans ou 20 ans qui viennent. Je pense que l'être humain, il est, pour moi, à l'échelle de sa propre vie, au sens large du terme. Je pense qu'il est plutôt en fin d'enfance, début d'adolescence, c'est pour ça qu'il fait un peu n'importe quoi. Et j'espère qu'il va devenir adulte un jour, mais je ne suis pas sûr que nous, on le voit, en tout cas.
Tiens, justement, à propos d'enfance, enfant, est-ce que vous vous imaginiez arriver là où vous en êtes aujourd'hui ?
Bien sûr, je me l'imaginais. Je ne pensais pas que ça serait possible, mais je me l'imaginais. Si on n'espère pas, si on n'a pas un peu d'utopie, on n'y va pas. Hein. Donc oui, bien sûr, j'espérais en tout cas. Après, je pensais pas que ça irait jusque-là. Vous savez, les objectifs, ils changent au fur et à mesure des années. Au départ, quand j'étais agent de sécurité, je me disais juste, si je peux juste gagner 1300 euros par mois en étant humoriste, plutôt que d'aller surveiller des parkings la nuit, ça sera déjà super. Et puis après, vous faites l'Olympia et vous dites, c'est super, j'aimerais bien remplir des zéniths. Et puis après, vous faites les zéniths en 3000, vous dites, ah, ça serait bien qu'on les ouvre en complet, que je les fasse en 5 ou 6000. Puis après, vous faites Bercy, vous dites, c'est super, maintenant il faut que les cinémas soient remplis, vous voyez. En fait, ça s'arrête jamais. Hein.
Mais là, vous allez remplir les cinémas, alors qu'est-ce qui va vous rester ?
Je vais trouver. Je vous assure
le Stade de France, hein, puis voilà.
Voilà, le Stade de France.
Vous n'êtes pas seulement humoriste, vous êtes aussi producteur. Est-ce que ça, c'est pour garder votre liberté ? Vous avez pris des risques, finalement, en vous produisant vous-même.
Au tout départ, c'était pour garder ma liberté. Au tout départ, c'était surtout pour surveiller les comptes. Parce que je trouvais qu'on ne me donnait pas beaucoup par rapport à ce que je remplissais comme ça, et j'avais pas tort. Donc après, j'en avais eu un peu marre de ça. Donc j'ai décidé au départ de monter la boîte de production pour pouvoir avoir accès aux comptes et pouvoir donner mon avis sur ce qui se passait. Et ensuite, j'ai eu envie de produire une artiste qui s'appelle Laura Lone. Ça a été la première artiste qu'on a produit. Et puis après, on a pris goût à la production. Donc au départ, je vous assure, le seul spectacle que j'ai produit intégralement de moi, c'est mon dernier. Les deux d'avant, ils étaient coproduits par des producteurs. Alors que moi, je produisais des artistes tout seul. Parce que justement, c'est mes spectacles qui assuraient une sécurité financière. Donc je ne voulais pas mettre en péril tout d'un coup. Parce que si mon spectacle ne marche pas, alors je ne savais plus payer mes employés et je ne savais plus produire mes artistes. Donc j'ai accepté une sécurité financière, si vous voulez, contre un pourcentage laissé à un autre producteur pour pouvoir continuer à financer ma société de production. Et il n'y a que maintenant, sur Anesthésie Générale, que je produis intégralement. Donc la société a grossi au fur et à mesure. Mais c'est un tout autre métier, producteur. C'est vraiment un autre métier.
Eh bien, vous êtes pluricasquette. Alors, je crois qu'on va régler légèrement votre micro parce que vous êtes un peu trop près.
Voilà. Ah, je suis trop près.
Ouais, voilà.
Et les auteurs qui se sont plaints, vous avez reçu les courriers.
Exactement. Ça grésillait, ou je ne sais pas, j'imagine. Je disais que vous étiez multicasquette. Vous avez fait le cours Florent. À la base, vous avez choisi le théâtre, vous êtes acteur. Est-ce qu'on pourrait imaginer vous voir un jour, non pas dans un one-man show d'humour, mais dans une pièce de théâtre en costume, vous voir dans du Molière par exemple?
Je l'ai déjà fait, j'ai eu la chance de jouer Arthur Rimbaud sur scène déjà.
Oui, d'ailleurs je trouve ça assez étonnant parce que Arthur Rimbaud de Charleville,
oui, je pense qu'on m'a pas choisi par hasard. et après là, vous voyez, par exemple, j'ai un film qui sort en mai où je joue un rôle très dur à côté de Golshi Stefarani dans un film qui est produit par Saïd Beltibia du collectif Courtrage-Mé. Donc et par exemple le cinéma, j'ai attendu qu'on me propose des rôles comme ça. J'ai évité, justement, on m'a proposé un peu des comédies au départ, des choses un peu classiques, et j'ai préféré refuser, même si parfois les offres étaient jolies, parce que je voulais aussi montrer que j'étais un acteur et un comédien. comédien et je savais très bien que si je partais dans les comédies en étant humoriste, c'était fini. On allait me proposer que des comédies. Mmh. Alors que si je commence par des films plus durs comme je suis en train de faire là, moi je peux toujours faire des comédies à côté parce que j'ai pas à prouver que je peux être bon en humour. Donc j'ai fait le choix de mettre même de risquer d'être absent au cinéma pendant quelques années pour démarrer dans ce genre de film, pour montrer au métier et aux gens que je pouvais faire autre chose.
Alors l'humour, vous y restez, c'est votre
c'est ma vie,
pain quotidien, c'est votre vie. Et le prochain projet, eh bien, c'est un projet en trio avec Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplain. Et justement, on va le saluer, Baptiste Le Caplain, parce qu'il est en direct avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Baptiste ?
Comment ça va, Jérémy Ferrari ?
On se quitte plus.
C'est vrai, vous ne vous quittez plus. Hein. Allez, on va parler de votre travail en commun dans un instant et on se quitte avec un peu de musique, ça adoucit les mœurs. Avec l'un de vos choix musicaux, c'est du M encore, Onde Sensuelle.
Mais comment t'attends, Onde Sensuelle ? Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour ?
Journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL. Le journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Jérémy Ferrari, votre tournée n'est pas encore achevée, que vous vous projetez déjà dans la suite. Ce qui va arriver très vite, ce sont les Duos Impossibles, 10e édition de cette émission qui sera enregistrée le 7 mai au Grand Rex et où vous conviez la crème de l'humour français.
Ah oui, là, cette année, donnez-nous
des noms.
Ah bon, on a Florence Foresti qui sera là, on a Alban Ivanov qui sera là, on a Ahmed Silla qui sera là, on a Paul Mirabel qui sera là, on a Arnaud et Baptiste, bien sûr, mes copains de toujours, on a Alexandre Kominek qui va être là. Là, vraiment, cette année, ils ont tous répondu présent, c'est super.
C'est un plateau doré. Baptiste Le Caplain qui sera là et qui est avec nous, on le disait juste avant la pub, bonjour, rebonjour Baptiste Le Caplain.
Bonjour.
Alors, ensemble, 10 ans après, vous allez à nouveau faire une tournée des Zéniths en trio avec Arnaud de Samer, c'est pour 2025. Et alors, déjà première question sur le remplissage. Vous avez déjà vendu 100 000 billets ou un peu plus de 100 000 billets ?
Ah, on a vendu 150 000 billets.
150 000 billets.
Donc là on approche des 200 000 billets vendus là, c'est incroyable. On était avec Baptiste et Arnaud, on se doutait que ça allait marcher. On n'est pas parti en se disant ça va pas marcher, mais enfin on s'attendait pas du tout à ça. C'est-à-dire que là on a rajouté déjà 6 Zéniths, on va en réouvrir d'autres. Enfin on s'est fait happer par ce truc. Nous au départ on a fait ça avec Baptiste et Arnaud parce qu'on est très très amis dans la vie et que il y a 10 ans on avait fait une tournée à trois où on faisait des morceaux de notre spectacle puis 2-3 sketchs un peu en trio et puis là on s'est dit ça serait bien d'offrir aux gens un spectacle inédit. On s'est dit on fait une petite tournée de 40 dates, 20 grandes salles et 20 zéniths en 3 mois et puis finalement ça va finir avec une tournée de 4 mois et demi ou 5 mois avec 60 ou 70 dates et des zéniths donc c'est assez incroyable. Ça stresse un peu Baptiste
Le Caplain, il est bavard. Hein, Jérémy Ferrari, vous n'avez pas encore parlé.
Non, je le laisse. C'est le producteur sur le truc, donc je peux rien dire. C'est mon chef, là, c'est mon supérieur hiérarchique. Je peux rien dire.
Ah, je peux vous dire,
moi, ça me stresse beaucoup. Lui, il en parle parce qu'il a un côté rassurant. Parce que moi, ça me stresse énormément de vendre autant de billets sans avoir fini d'écrire. Non, mais oui, c'est un truc un peu fou. On est parti, on avait une photo, d'affiche et on avait quelques idées. Mais déjà, on a mis 3 semaines, 1 mois avant de trouver l'axe du spectacle, ce qui m'a beaucoup stressé. C'est moi, j'aime bien écrire des blagues. Et Jérémy est très, comme il l'a dit avant dans l'interview, j'ai écouté, il était très bien. Hein. Mais il est très structuré, il veut qu'on sache où on aille, qu'on aille du point A au point B, en passant par le point C, que ce soit très cohérent et tout. Donc, et puis on a commencé à écrire, et ça a très bien démarré. Et puis on a remis les 10 ans des duos entre-temps.
Et il y a beaucoup de trucs à écrire. Ouais. Qu'on présente cette année, elle est
effectivement, aussi. Vous êtes inséparables, que ce soit sur les duos impossibles ou sur ce trio. Alors, comment est-ce que ça se passe, le travail en trio, puisque vous travaillez vraiment ensemble, hein, pas chacun de votre côté. Ça fonctionne comment ?
Alors, vas-y, tu veux répondre ?
Non, vas-y. Enfin, on est enfermé dans un bureau tout petit, qui me stresse.
Ah ouais ? Vous êtes claustrophobe ?
Ouais, ça me stresse, ouais. Non, mais je sais plus, la dernière fois, j'avais déclenché ma montre pour compter le nombre de pas que je faisais dans le bureau. Et on est dans un endroit très, très petit, parce que Jérémy a investi dans des très beaux bureaux, mais... comme dans tous les chantiers, il y a du retard. Donc il va falloir. Il nous avait promis un grand bureau pour écrire, c'est pas encore le cas. Donc je passe mon temps à me lever de ma chaise, à parler très fort, à ouvrir la fenêtre et à la fermer. Et voilà.
Et alors comment ça se passe ? Moi, je me suis laissé dire par vous, d'ailleurs, Jérémy, que vous faisiez des blagues et si les trois ne riaient pas, c'était censuré, ça passait pas.
Alors quand je dis vous, c'est pas moi, hein, c'est l'un des trois. Hein. Mmh. C'est pas que moi qui fais. Alors en fait, comment ça se passe ? Vous avez Arnaud qui est assis sur le canapé et qui tape et qui note et qui commente et qui propose quelques idées. Vous avez moi qui suis surtout silencieux et qui me projette sur la structure des sketchs, parce que comme l'a dit Baptiste, c'est surtout ça qui m'angoisse, c'est de me dire est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'on raconte une histoire, etc. Et vous avez Baptiste qui est debout, qui tourne en rond et qui sort une vanne toutes les secondes. Donc une vanne avec Arnaud qui rit et qui dit celle-là elle est super, je la note, qui rebondit pour trouver des vannes et moi qui dis non mais attendez, c'est pas cohérent, faut que ce soit cohérent avec ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc l'un des trucs qui a le plus stressé Baptiste, c'est quand j'ai dit avant d'écrire des vannes, on va essayer d'imaginer une structure de spectacle. C'est le pire moment. Là Baptiste, il s'est vraiment énervé premier degré en disant mais on va pas rester là, imaginer une structure, faut qu'on fasse des vannes. Il est vraiment ouf.
Alors les vannes justement, vos humours respectifs, comment est-ce que vous les décririez vos humours à tous les trois, Baptiste?
Comment je décris l'humour de Jérémy?
Ouais.
Incisif, impertinent, noir, très drôle.
Oh, c'est bon, on dirait Télérama.
non, oui, voilà, oui, je veux que t'aies les 4 T.
L'humour d'Arnaud de sa mère, il est pas là, vous pouvez y aller.
Arnaud, il est totalement absurde. Lunaire, mais Arnaud c'est un comédien incroyable. Arnaud, on peut lui donner n'importe quelle vanne à jouer, il va la réussir, il va la sublimer. Enfin, je veux dire, moi je l'avais vu jouer aux côtés de Pierre Palmade dans des pièces, le voir faire du théâtre de vaudeville où il a incarné 15 personnages tout seul, on l'a quand même mis en bohémienne, nymphomane. Enfin, il arrive à tout jouer, quoi. Donc, c'est Arnaud, c'est notre couteau suisse à Jérémy et à moi, mais c'est deux gars absolument brillantissimes dans l'interprétation, dans l'écriture. Jérémy, c'est un marathonien. Enfin, moi, j'ai vu tous ses spectacles, c'est impressionnant. C'est une vraie performance de tenir aussi longtemps sur scène tous les soirs. Et puis, dans l'écriture, il est très très intelligent. C'est brillant ce qu'il écrit, Jérémy. Et c'est très drôle. Et il sait aussi faire du vrai sketch. Du vrai sketch pur aussi. Voilà, quand on le voyait, on ne demande qu'à en rire. Ou moi, ce que j'aime avec les humoristes, c'est qu'on arrive à retenir des blagues entières et des sketchs entiers de Jérémy. Et ça trompe pas. Arnaud, faut, pour citer les blagues d'Arnaud, faut se réveiller de bonne heure.
Jérémy, l'humour de Baptiste Le Caplain ?
Baptiste, c'est vraiment un spécialiste de l'humour d'observation. Mais en même temps, ça, c'est ce qu'il fait lui sur scène. Mais en réalité, parmi les meilleures vannes d'humour noir que j'ai pu sortir au duo Impossible, souvent c'est Baptiste qui me les a soufflées. Et en fait, Baptiste, il sait vraiment tout écrire. Il sait écrire de l'absurde, Lui, sur scène, il fait beaucoup du quotidien, on va dire de l'humour d'observation, même s'il y a beaucoup d'absurde aussi dans ce qu'il fait. Hein. Parce qu'il fait parler des animaux, machin, enfin, il est aussi dans l'absurde. Mais on va dire que si on doit mettre une étiquette, on n'aime pas trop ça, mais si on doit mettre une étiquette, moi je suis dans l'humour noir, Baptiste est dans l'observation, Arnaud est dans l'absurde. Même si en réalité, vous retrouvez les trois univers,
oui,
dans les univers respectifs. Hein.
Et d'ailleurs, vous êtes amis dans la vie et ça compte aussi. C'est ce que vous nous direz dans un instant. Vous restez avec nous, Baptiste Le Caplain. On se retrouve tout de suite dans le journal inattendu.
Le journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL. Le journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Chose cette musique, Jérémy Ferrari.
Ah ouais, mais j'essaie de me...
Ah, mais Baptiste Le Caplain est avec nous en direct et il va vous éclairer.
On n'a pas dansé là-dessus ?
Si, c'est musique qu'on avait mise pendant le repas cet été.
Ah oui,
et on a fait une story là-dessus.
Baptiste, ça l'exaspère les stories parce que les gens adorent tellement nos stories qu'en fait, après les spectacles de Baptiste, les gens ils viennent voir et qu'est-ce que c'était drôle les stories cet été. Ça exaspère Baptiste.
Mais non, mais c'est pas que ça m'exaspère, c'est que on fait des trucs très drôles. J'ai pas envie qu'on fasse des trucs plus drôles que ce qu'on écrit, ça serait catastrophique. Et même pour le business plan, enfin, les stories sont pas payantes.
Alors, ce qu'on apprend dans tout ça, c'est que vous passez vos vacances ensemble, donc vous êtes amis, vous faites des stories pour faire rire votre public, et c'est gratuit, et c'est ce qui vous inquiète, Baptiste Le Caplin.
Non, mais ça me fait plaisir de faire. Non, mais j'ai pas le réflexe que Jérémy et Arnaud ont de faire des stories. Non, mais en vrai, c'est très rigolo. On a fait des trucs, enfin, ils nous attachaient, enfin, faut quand même nous voir, où ils nous mettaient des laisses de chien autour du cou, ils faisaient sauter dans la piscine. Enfin, c'est quand même des trucs, si les voisins voient ça avec des jumelles, ça peut, on peut être dénoncé aux flics. Hein.
Déjà, tes enfants avaient du mal à comprendre.
Oui, les enfants.
Pourquoi papa, il est attaché avec une laisse?
Mais dites-moi, vous ne vous ennuyez pas quand vous passez des vacances ensemble?
Ah non, on rigole beaucoup. Hein. On fait vraiment que rigoler. Ah, on fait vraiment que rigoler. Mais non, mais on rigole tout le temps ensemble. Mais c'est pour ça que, vous savez, je pense que en vrai, même le succès de ce trio, évidemment, c'est les sketchs qu'on a fait à la télévision tous les trois, etc. Mais je crois vraiment, et surtout que c'est la sincérité de l'amitié que les gens sentent entre nous. Je pense que c'est ça qui les met de bonne humeur et qui leur fait du bien aux gens, parce que c'est sincère, en fait. On est vraiment très clients l'un de l'autre, les uns des autres. On est très admiratifs chacun du travail de l'autre. Et on est vraiment très, très, très amis dans la vie. Donc on s'aime vraiment. Donc du coup, on rit vraiment, on déconne vraiment. Et nos personnalités sur scène sont quand même assez proches de la réalité dans la vie. On se caricature, mais si vous voyez des dîners, c'est quand même à peu près les mêmes vannes, quoi.
Bon, qui est-ce qui rit le plus aux blagues des autres ?
Il y a Arnaud qui rit beaucoup, 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 beaucoup aux vannes de Baptiste. Et des fois, même, ça m'énerve tellement il rit. Des fois, je dis, mais ça va, c'est OK, c'est drôle, mais pas à ce point. Et Arnaud pleure de rire. Donc, en fait, Arnaud est particulièrement client de l'humour de Baptiste.
Qui est-ce qui est le plus fou d'entre vous trois ?
Dans la vie ou sur scène ?
Ah, bah, dans la vie, hein.
Fou, je sais pas, ça dépend quoi. Fou sentimentalement, c'est Arnaud.
Oui, sentimentalement, c'est Arnaud. Oui, on peut pas vous raconter à l'antenne. Mais oui.
Qui est-ce qui est le plus critique?
C'est moi, je pense.
Ouais, je pense que c'est Baptiste.
Ah oui?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Baptiste, il est dur. Hein.
Moi, je peux être dur. Hein.
Il est un peu dur.
Non, mais je suis très fan, mais je suis aussi, je peux être très client et pas du tout client. Mais
non, mais bon, il est très exigeant. C'est quelqu'un très exigeant et disons qu'il y a pas d'entre deux, quoi. C'est soit c'est génial, soit c'est de la merde. Voilà. Il y a pas de possibilité.
Compromis.
Non, il y a pas de main tendue. C'est tu sais nager ou tu meurs.
Qui est-ce qui est le plus stressé, le plus angoissé?
Oh, bah, ça c'est moi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Même si Baptiste exprime beaucoup de stress, par exemple pour le trio, mais moi je suis un vrai angoissé chronique, donc je suis tout le temps stressé. Et d'ailleurs Baptiste m'imite, parce que au fur et à mesure des années j'ai effectivement arrêté l'alcool et les drogues, mais j'ai attrapé plein de tics. Donc je fais plein de trucs avec mes bras bizarres, j'ai chopé plein de tics, et Baptiste adore me m'imiter en train de faire des notes vocales hyper stressées, en train de faire bouger mon bras de manière un peu bizarre. Et en plus, ce tic, il ressemble vachement au tic de Nicolas Sarkozy, alors c'est hyper chiant.
Jérémy Ferrari, dans vos spectacles, à vous, vous allez assez loin, vous bousculez pas mal votre public, vous êtes très très caustique. Est-ce que vous vous réfrénez lorsque vous êtes en trio ?
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais après, par contre, ce qui est bien, c'est que le trio, ça m'amène aussi, moi, sur d'autres choses. Je ne vais pas aller porter un sujet comme la santé ou la géopolitique.
Oui,
quoi. Il va y avoir de l'humour noir dedans, parce que c'est ce qui me fait le plus rire, moi, quand je le fais, en tout cas. Mais je veux dire, j'ai moins à porter. Mais c'est ça aussi qui est chouette avec Baptiste et Arnaud. C'est que, tout à coup, c'est un peu aussi... c'est un peu reposant pour moi. Mmh. Là, la tournée avec mes deux copains, c'est la colonie de vacances. Je veux dire, je vais juste aller marrer avec mes potes sur scène pendant 2h30, quoi.
Baptiste Le Caplin, est-ce que...
J'ai vérifié la durée du spectacle.
Ah oui, parce que vous, votre spectacle était plus court.
Ouais, ben, j'en ai quand même sur 1h30. Hein, parce que Jérémy... Enfin, ce qui est fou, c'est à chaque fois que j'arrête le spectacle, j'ai une pensée pour Jérémy. À chaque fois que je fais mes saluts, je me dis, ah, là, Jérémy, il en est à la moitié.
Exact.
Donc, je ne sais pas comment il fait pour tenir. Ouais, c'est impressionnant.
Il faut que les auditeurs sachent que les spectacles de Jérémy Ferrari sont extrêmement longs, 3 heures, voire parfois plus. Parce que
attendez, ne fais pas peur aux gens. Non, normalement, ils font 2h30 mes spectacles. Mais là, avec le Covid, comme c'était sur la santé, j'ai dû rajouter une demi-heure. Et après, des fois, il y a de l'impro. Bon, ben voilà. Donc, on arrive parfois à 3h40.
enfin, c'est rare.
Non mais Ben-Hur et Titanic, c'est 3 heures, c'est des très bons films. Hein,
oui, temps, puis c'est moins drôle que moi quand même.
Oui, exactement, c'est beaucoup moins. On rit plus qu'à Ben-Hur. Ça, c'est une bonne critique.
Baptiste Le Caplin, vous êtes en pleine phase d'écriture. On l'a dit tout à l'heure, vous étiez quand même stressé parce que vous aviez déjà l'affiche de votre spectacle et vous n'aviez pas encore le contenu. Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes un peu plus détendu?
Non, mais oui, non, mais en vrai, c'est du stress. C'est pour pas qu'on se repose sur nos lauriers. Je sais qu'on le fera pas. Mais c'est juste un truc de. Parce que tous les jours, on en parle. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas du trio. Et donc, je sais, comme Jérémy l'a dit, je peux être très critique sur ce qui peut se faire dans le métier. C'est que je veux pas qu'on arrive à faire un truc juste bien. Faut que la promesse de nous trois sur scène avec un contenu 100% original, avec le temps d'écrire sur un truc qu'on va peaufiner sur 5 mois, 6 mois, faut que ce soit excellent. Donc c'est juste de la bonne exigence qu'on se met. Mais quand on travaille avec Jérémy Ferrari, enfin voilà, Jérémy, on voit les qualités de ses spectacles. J'imagine pas qu'il va monter sur scène avec nous et rater un truc.
Non, mais c'est... réponse en 2025, hein, tout simplement.
Mais bah ce qui est un peu stressant, en fait, si vous voulez, c'est que nous, au départ, Baptiste et Arnaud, on a commencé à faire des sketchs, des inter-sketchs au duo Impossible. Donc, on a commencé à faire des inter. Donc, c'était pas censé être les trucs les plus drôles de la soirée. Et donc, on s'est juste dit, bah tiens, comme c'est des inter-sketchs, on va juste faire ce qui nous fait marrer, nous. Donc, on y allait sans pression.
Et aujourd'hui, il y a
une telle attente autour d'un truc au départ, nous, on n'avait pas mis d'enjeu. Parce que moi, Baptiste Arnaud, on est des très très gros bosseurs sur nos solos. Donc du coup, ça nous fait drôle de se dire, tiens, c'est presque trop facile. Alors il faut pas qu'on déçoive.
Allez, j'espère que vous ne décevrez pas. En tout cas, vous avez encore le temps de travailler puisque les trios, la tournée des Zéniths, c'est en 2025. Merci beaucoup Baptiste Le Caplin d'avoir passé ce moment avec nous et avec Jérémy Ferrari.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Jérémy Ferrari, on arrive au terme de cette émission. Notre invitée de la semaine passée, c'était l'actrice Annie Dupéret. Elle nous a laissé un message pour vous.
Jérémy, je ne t'ai pas encore vu, mais on m'a raconté un peu ce que tu fais. Alors, je pense que continue à avoir un œil aigu sur notre époque et pratique l'irrévérence. On a besoin d'irrévérence. Continue.
Un petit message?
C'est qui?
Annie Dupéret. Oh non! Oh, il est drôle! Ah, oh, j'aime bien. Finalement, je me suis laissé prendre. Tac!
Elle me demande de continuer l'irrévérence. Voilà, c'est fait.
La semaine prochaine, nous serons en direct du Salon de l'Agriculture pour la première journée de ce rendez-vous sous haute tension cette année. Jérémy Ferrari, je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nos auditeurs en direct, bien sûr. Je rappelle que vous achevez votre tournée du spectacle Anesthésie Générale les 9 et 10 mars prochains à l'Accor Arena à Paris. Le 10 mars, ce sera aussi en direct dans les salles de cinéma. Et puis vous préparez le retour du trio avec Baptiste Le Caplin et Arnaud de Samer pour 2025 et une tournée des Zéniths qui est déjà un succès, 150 000 billets vendus. Vous avez ajouté des dates. Les vacances, ça n'est pas pour demain. On vous souhaite beaucoup de bonheur sur scène. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur RTL. Très bon après-midi à tous.
Le journal inattendu de Jérémy Ferrari
avec Nathalie Renoux sur RTL.